Place à l'invité, on va retrouver Romain Cornet. Romain, vous recevez aujourd'hui Jean-Éric Branat-Jolizet, auteur d'un livre sur l'Amérique de Trump et maître de conférences à l'Université Paris 2.
Bonjour Jean-Éric Branat.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Paris. Revenons d'abord sur l'actualité de ces derniers jours. Les États-Unis ont d'une part lâché Israël, entre guillemets, en ne mettant pas leur veto à une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant l'extension des colonies israéliennes. Et puis ensuite Obama, et on le disait il y a un instant, a annoncé des sanctions contre la Russie qu'il accuse d'avoir voulu influencer l'élection présidentielle. 35 diplomates russes expulsés du territoire américain en plein week-end du Nouvel An. Donald Trump a réagi, lui, en apportant son soutien à Poutine, à Netanyahou. Comment est-ce que vous analysez ces événements qui se déroulent en toute fin de mandat d'Obama ?
C'est ça, une grande richesse de cette fin d'année quand même, où on se demande où va le monde et tout d'un coup, ça a l'air de s'affoler. Alors, je reprends ce que disait Cynthia Isarelli, qui m'a d'ailleurs bien fait rire. Effectivement, on appelle ce président le lame duck, le canard boiteux, ce qui veut dire que officiellement, il n'a plus grand-chose à faire à la tête du pays. Mais en même temps, il rappelle au monde qu'il est quand même, jusqu'au 20 janvier, le président en exercice et que c'est lui qui détient l'autorité. Donc, effectivement, il a... Même si la tradition veut qu'il se range un petit peu sur le côté et n'embête pas le président suivant, ben, il a décidé de faire autrement.
Ce week-end, l'équipe de Trump disait que la véritable cible des sanctions à l'égard de la Russie, c'était pas tant la Russie, mais Donald Trump. Il y a une volonté de mettre des bâtons dans les roues du président élu ?
Mais exactement. On a le début de la transition qui s'est passé très très bien avec Barack Obama qui avait fait une déclaration de principe en disant qu'il espérait que cette transition serait très très différente de celle qu'il avait eue lui-même avec George Bush qui s'était déjà pas très très bien passé. Et en réalité, Donald Trump dénonce, ça fait un petit peu plus que ce week-end, ça fait maintenant une dizaine de jours, une transition qui se passerait assez mal, bien sur le devant de la scène, mais en coulisses, ce serait assez compliqué, pas sur les aspects techniques de la transition, mais sur les aspects politiques de cette transition, où Barack Obama a envie de sauver son mandat et de laisser un héritage qui marquera, et d'empêcher Donald Trump de mettre en place ce qu'il nous a annoncé pendant cette campagne et dont nous allons reparler aujourd'hui.
En même temps, la CIA accusait quand même la Russie d'être à l'origine du piratage ayant permis d'accéder aux emails d'Hillary Clinton. Il y a quand même une accusation qui est relativement grave, si elle est fondée, bien sûr, mais enfin, il y a ce rapport de la CIA. On aurait pu reprocher à Obama de ne pas réagir s'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait pas décidé de telles sanctions.
Je pense que vous avez complètement raison. Bien entendu, il fallait qu'il y ait une réaction. Il l'a annoncé très clairement. Il le fait. Bon, on est dans la continuité. Là où c'est un petit peu difficile, c'est qu'il n'a pas informé Donald Trump comme ça se fait traditionnellement aux États-Unis, puisque on a quand même un président qui attend de pouvoir accéder au pouvoir, mais qui est déjà élu par le peuple, même si la confirmation n'arrivera que dans 5 jours, puisque c'est le 6 janvier. Au Sénat que le vice-président va annoncer officiellement le résultat et que Donald Trump sera donc vraiment intronisé président des États-Unis avant de l'être par l'investiture le 20 janvier. Tout ça, c'est un protocole très compliqué qui correspond à ce que la Constitution a prévu. Mais Barack Obama a agi très fortement en ne tenant pas compte de Donald Trump, qui d'ailleurs ne tient pas compte de lui. Alors vous parliez de la CIA, j'ai envie de faire remarquer aussi que on a quelque chose de tout à fait inédit, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis, qu'on a un président qui est donc élu, Donald Trump, qui est en guerre avec une institution qui dépend de lui, puisque la CIA doit obéir au président des États-Unis et que le président qui arrive est déjà en guerre avec cette institution. Donc c'est assez étonnant. Et il est d'ailleurs en guerre avec une deuxième institution, puisque on l'a vu s'adresser à des chefs d'État sans passer par le département d'État américain, sans demander des experts qui sont attachés à ce département d'État. Et là aussi, c'est tout à fait inédit. On a donc un président qui est coupé de son l'administration qu'il va prendre en charge dans maintenant 19 jours. C'est quelque chose d'assez édifiant à observer.
Oui, coupé entre autres, effectivement, de l'administration des affaires étrangères parce qu'il rompt avec tous les codes de la diplomatie traditionnelle, notamment parce qu'il est ce tweetos compulsif qui, parfois, s'en prend à la Chine en 140 caractères. On a une diplomatie qui, sur la forme, sur le style, est radicalement en rupture avec tout ce qu'on connaissait.
Alors oui et non. C'est vrai qu'on a une rupture. On a une rupture avec ce qui s'est fait depuis 50 ans, pour faire simple, depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque dans la diplomatie américaine, on est dans ce qu'on appelle l'internationalisme. Donc les États-Unis s'inscrivent effectivement dans une logique des deux blocs qui ont émergé à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On avait un monde bipolaire, donc l'Est, l'Ouest. Ils avaient pris la tête du bloc de l'Ouest. Mais rupture pas tant que ça, parce qu'il y a une tendance un peu plus moderne, on va dire maintenant, qui pousse au nationalisme. On le voit en Europe également, on le voit dans beaucoup de pays du monde. Aux États-Unis, c'est une tendance qui a émergé assez fortement au sein du Parti républicain, poussée par les Tea Party, qui demandent aujourd'hui une réponse ferme aux terroristes en particulier, une armée plus forte, une défense des frontières. Et Donald Trump s'inscrit dans cette logique à laquelle il ajoute une touche tout à fait personnelle, qui est le non-interventionnisme, qui là aussi n'est pas réellement une rupture. Enfin, une rupture avec ce qui vient de se faire maintenant, mais pas une rupture avec la tradition américaine, puisque c'est celle qu'on a connue de la naissance des États-Unis jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les Américains pensaient que le reste du monde devait se débrouiller sans eux et que c'était très bien comme ça. Donc on a un retour aux sources, presque jeffersonien, si, sans faire retourner sur eux-mêmes tous ceux qui sont des admirateurs de Jefferson. Mais effectivement, une tradition très américaine qui va rompre avec les présidents qui viennent de passer. C'est juste avant lui, mais qui va retourner à une idée très américaine.
Concrètement, ça veut dire qu'il faut s'attendre ou qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les Américains interviennent plus massivement en Syrie, par exemple, ou sur des terrains comme ça. Vous pensez qu'ils vont moins se préoccuper des affaires étrangères ?
Oui et non, là encore, on parle très souvent de cette idée de rupture totale. En fait, on va, je pense, se passer vers une politique qu'on appelle du retrenchment, donc du désengagement raisonné. Ce serait plutôt un retour à la géoéconomie, qui va reposer sur les éclairages commerciaux plutôt que sur la force militaire. Donc l'idée de l'intervention n'est pas le premier déclencheur de cette politique internationale dans l'avenir, à mon sens. Alors ça, on le voit pour l'instant, évidemment, je fais moi aussi de la politique fiction en disant cela, et comme le disait votre humoriste tout à l'heure, je n'en sais fichtrement rien, donc je suis bien obligé de m'appuyer sur ce qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'on connaît ? On a eu trois discours fondateurs de la part de Donald Trump, très tardivement dans la campagne. Le premier, c'était le 27 avril, donc à la toute fin des primaires, dans lequel il a quand même parlé de la loi du rapport de force, pour répondre concrètement à votre question. Mmh. Il a mis en exergue la perte d'influence des États-Unis dans le monde. Il a attaqué très fortement Barack Obama, qu'il a accusé d'être un président faible, ce qu'il continue de faire aujourd'hui d'ailleurs. Il demandait une politique plus ciblée, mais qui serait moins coûteuse. On a entendu ce slogan dans lequel il expliquait que les États qui demandent l'aide des États-Unis devraient payer pour avoir cette aide, ce qui était une vraie rupture là aussi. Le deuxième discours, c'était au milieu de l'été, après la convention républicaine, qui a porté sur le terrorisme, donc la question du moment dans le monde entier, on va le dire, et donc il a porté cette question, là aussi pour répondre concrètement à votre question, pour s'attaquer à la naissance de Daesh, et il a mis en cause l'intervention en Libye qui avait été faite par Clinton et Obama, et notamment la remise en cause du discours du Caire, donc rapidement le 4 juin 2009...
Tentative de rapprochement avec le monde musulman.
Exactement, de la part de Barack Obama à l'université du Caire. Ça, c'était également un acte très très fort dans lequel il montrait qu'il y aurait une réelle rupture dans la diplomatie entre l'ère Obama et l'ère Trump si jamais il devait être élu. Et le 7 septembre, c'était pour moi une vraie surprise aussi, on était quelques jours avant le premier débat entre lui et Hillary Clinton, dans un forum de la sécurité qui portait uniquement sur la politique étrangère, dans lequel on pensait qu'il allait s'écrouler. Et en réalité, c'est pas ce qui s'est passé. Alors ça tient aussi à la personnalité de Matt Lauer qui l'interviewait et qui ne l'a pas beaucoup attaqué puisque proche de lui. Mais il a expliqué à ce moment-là quelque chose de très important. Il a dit qu'il croyait à la force de la diplomatie, ce qui était une rupture avec une politique mise en place par Hillary Clinton et Barack Obama sur le changement de régime. Donc on arrêtait cette politique des changements de régime pour laisser les régimes en place. Et donc Bachar al-Assad, par exemple, en travaillant la diplomatie. Donc son intervention en Syrie, je pense, pour arriver maintenant concrètement à une réponse après ce long préambule, sera une dans cette droite ligne. Effectivement, faire respecter les intérêts américains, en particulier commerciaux, mais pas forcément intervenir en essayant de renverser celui qui est en place. Donc, il le dit depuis très longtemps, s'inscrire dans la logique de la Russie et travailler très fortement avec Vladimir Poutine dans cette région.
Est-ce que c'est par pragmatisme sur un plan géopolitique qu'il faut comprendre ce rapprochement avec la Russie, ou bien il y a d'autres amitiés, comme on a parfois dit, plus anciennes? Comment est-ce que vous comprenez cette volonté de se rapprocher de la Russie ?
Non, je le crois. Je crois que c'est effectivement du pragmatisme. Les deux hommes ne se connaissent pas. Hein. Ils se rapprochent effectivement. On pourrait presque dire qu'ils se font la cour. Enfin, on assiste à ce ballet diplomatique dans les coulisses depuis quelque temps. Là aussi, en étant un peu ahuri de ce qui se passe. Mais ces deux hommes se ressemblent d'ailleurs. Ce sont des gens apparemment de même caractère, qui croient un petit peu aux mêmes choses aujourd'hui. Donc, encore une fois, un nationalisme, l'idée du rapport de force, pour eux, leur propre État doit être plus fort et plus solide dans le monde et à l'intérieur. Donc, ils ont tout pour se rapprocher. Pour le reste, on ne sait pas aujourd'hui, évidemment. On n'a pas le détail de la politique qui sera mis en place par Donald Trump, si cela va fonctionner et s'ils vont s'entendre, ce qui est quand même très important. Et ce qu'on ne sait pas également, ce qui est d'autant plus important, c'est si Donald Trump va conduire lui-même sa diplomatie. Parce que les signes que l'on relève actuellement depuis le début de la transition seraient que là aussi, il sera en rupture avec ce qui s'est passé avant et qu'il transmettrait la mise en œuvre de sa diplomatie à ses ministres. Ce qui serait là aussi une nouveauté, restant lui le dernier recours, un petit peu comme le PDG d'une entreprise qui nomme des cadres supérieurs, qui les envoie dans ses différentes succursales et qui demande des bilans pour ensuite distribuer les bons points ou les mauvais points. Donc on aurait une forme de gouvernance qui serait très différente.
Et en particulier transmettre à Rex Tiller, ancien patron d'Exxon, choisi comme secrétaire d'État et qu'on dit d'ailleurs proche de Vladimir Poutine, hein, c'est ça ?
C'est cela. Rex Tiller, qui est effectivement un choix curieux, si on se met dans la droite ligne de l'internationalisme de ces 50 dernières années, mais complètement logique dans ce retour à la géoéconomie dont je parlais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a mené des contrats dans le monde entier avec tous les leaders. Donald Trump, en le présentant, a dit c'est un grand négociateur qui a pu négocier avec tous les chefs d'État, à tel point, par exemple, que cette homme-là ne s'est jamais embarrassé de problèmes diplomatiques. En 2013, à titre d'exemple, il signait des contrats avec le Kurdistan au moment même où le département d'État essayait de développer l'idée d'Irak unique. Donc voilà, c'est je veux dire, la diplomatie traditionnelle, les questions de démocratie, les questions de droits de l'hommiste ne l'embarrassent pas plus que ça. Il n'a pas eu de problème pour aller signer des contrats avec des dictateurs au Tchad, au Congo, en Angola, en Guinée équatoriale. Tout cela, c'est pas tant son problème. Mais là aussi, on peut se demander si c'est lui qui va être réellement en charge de cette diplomatie, ou ce ne seraient pas plutôt les hommes de l'ombre, car il y a aux États-Unis deux pouvoirs en réalité. Il y a le gouvernement, le cabinet, mais il y a aussi l'Executive Office of the President, ce bureau exécutif qui est autour de lui, qu'on appelle généralement les hommes de l'ombre. Et il a nommé dans ce bureau exécutif des hommes qui pourraient devenir des pions très puissants de cette démocratie, comme le général Flynn ou Kelly. Un autre général qui sont pour le coup très très abrupts sur leur politique étrangère, avec des idées très précises.
Est-ce que c'est la présence au sein de ses conseillers ou de son administration d'un certain nombre d'anciens militaires qui explique qu'il ait aussi voulu renforcer les moyens de l'armée, parlant même de renforcer la puissance de dissuasion nucléaire des États-Unis, ce qui est un peu et même fort en rupture avec tous les efforts de désescalade nucléaire qu'on a connus?
Je pense plutôt, à mon sens, que c'est le contraire. S'il y a des généraux aujourd'hui à son gouvernement, c'est parce qu'il a cette idée d'une armée forte et renforcée qui correspond, comme je l'expliquais tout à l'heure, à cette tendance qui pousse au nationalisme actuellement et cette base du Tea Party qui demande très fortement cette chose-là. C'est une idée quand même très populaire au sein du Parti républicain et il a besoin aujourd'hui d'avoir le soutien du Parti républicain pour réussir dans sa politique parce qu'on n'a pas encore abordé ce sujet-là, mais...
Il y a des tensions avec certains cadres du parti.
Exactement. La séparation des pouvoirs voulue par la Constitution aux États-Unis fait que le président américain n'est pas un personnage surpuissant comme on peut l'imaginer traditionnellement. Il y a le Congrès et le Congrès, actuellement, n'a pas vraiment décidé quelle position il allait prendre vis-à-vis de ce nouveau président.
Il pourrait se faire face à une opposition au Congrès qui lui bloquerait certains projets, en tout cas qui lui mettraient des bâtons dans les roues aussi, s'il n'arrondit pas un petit peu les angles avec des cadres du parti qui, par exemple, ont critiqué sa posture sur la Russie, ont plutôt soutenu les sanctions décidées par Barack Obama. Il doit faire attention à ça, vous pensez ?
Mais bien entendu, il a un vrai problème avec certains hauts sénateurs, des faucons, comme on les appelle, à commencer par John McCain, l'ancien candidat à la présidence, qui est devenu son opposant numéro un depuis le premier jour de l'élection. Il ne rate pas une occasion de le critiquer sur tout ce qu'il fait, et qui est très très influent au sein de ses sénateurs, mais également Lindsey Graham, l'ancien gouverneur de Caroline, qui s'oppose également très fortement, qui a été candidat à la présidentielle, donc cette fois-ci candidat malheureux, et qui s'oppose également